bonjour à tous. Voilà, merci déjà pour ces quelques mots de présentation aussi. Et je rajoute à ça quelques mots de remerciement à toute l'Église. Merci beaucoup pour vos prières. Et vous savez combien c'est précieux pour ceux qui sont dans le service du Seigneur, qui sont dans un grand combat et qui apprennent chaque jour un peu plus à expérimenter, à comprendre combien ils sont faibles. Vous savez, nous tous, nous aimerions tellement être forts pour le Seigneur et on voudrait le réjouir comme cela, en lui disant tu mérites ça, Seigneur, parce que tu as fait tant pour nous et maintenant nous voudrions faire ça pour toi. Et on voit ce qu'il faut attendre, on sait, on pense savoir ce qu'il faut faire, et puis on a le sentiment tellement souvent qu'on n'y arrive pas. Moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Mais il y a un passage qu'on a lu ce matin, où on voit, et je pense que c'est une grande école pour nous tous, on voit que c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qui ne vient pas comme ça, apprendre à nous réjouir même de notre faiblesse. Je ne sais pas combien peuvent dire, comme l'apôtre Paul, que finalement, sa faiblesse ne représente plus un problème pour lui. Pourquoi ? Mais parce qu'il réalise une chose, que quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Un tout petit témoignage par rapport à cela, avant de continuer pour la prédication de la parole. Mais vous avez peut-être les uns et les autres expérimenté ces moments où vous êtes là, presque, vous baissez la tête, vous rougissez, vous avez le sentiment que vous avez raté quelque chose, que vous n'avez pas fait comme vous étiez préparé à faire ou comme vous saviez qu'il fallait faire. Et vous êtes persuadé, c'est un échec, c'est tellement évident, c'est un échec. Et vous baissez la tête presque à demander pardon au Seigneur. Puis pendant ce moment-là, quelqu'un arrive et vous remercie pour ce que vous avez considéré comme un échec. Et la personne vous dit combien ça lui a tellement apporté. J'ai vécu ça il n'y a pas longtemps, hier. Et à un moment, j'avais l'impression que la personne, voyant mon sentiment, justement, d'avoir un peu raté, que la personne voulait juste me consoler. Mais c'est quelqu'un qui ne me connaissait pas du tout. Et qui a dit cette phrase, a touché mon épaule, et pendant pleine cérémonie, m'a dit, « Je ne suis pas de votre confession, mais j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, et c'est très bien ce que vous avez dit. » Et j'avais le sentiment d'avoir pas pu restituer ce que je m'étais vraiment préparé à restituer. Et le Seigneur, c'est comme ça qu'il nous apprend à ne pas compter uniquement sur notre face. C'est un très bon thème pour nous ce matin. Et je remercie le Seigneur qui me permet d'être avec vous le jour de ce thème-là. C'est une grande école, mais c'est une grande vérité aussi. Et je pense que c'est au fur et à mesure que nous allons apprendre à découvrir combien c'est vrai que le Seigneur, il nous a aimés, c'est lui qui nous a appelés, il savait à l'avance qui nous étions, il savait à l'avance aussi toutes ces ratées hein, que nous allions avoir. Et il veut nous montrer une chose, nous apprendre à une chose. Et ce sera, vous verrez que dans une certaine mesure, on sera dans le thème avec la prédication de la parole. Il veut nous apprendre à une chose, gardez le regard sur moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gardez le regard sur moi et puis faites-moi confiance. Merci beaucoup pour tous vos encouragements. J'ai beaucoup de joie pour plusieurs raisons parce que je sors très peu de Bordeaux. Et ça fait longtemps que j'avais le projet. Tout récemment, j'avais même fixé une date pour venir ici et aussi passer vous voir. Et cela avait échoué encore. Je voulais même voir une petite cousine que j'ai pas loin de chez vous. Pas loin, ça dépend, à Argenteuil. Et ça a échoué. Et puis j'étais un petit peu triste de cela. Donc j'ai une grande joie que ce mariage me donne l'occasion d'être avec un vieil ami. Voilà. J'avais pensé à un moment vous donner quelques mots de témoignage. Je ne le ferai pas finalement, mais c'est en 1986, en venant ici pour des études, que j'ai connu le Seigneur. Et une des premières personnes que j'ai rencontrées, parce qu'on l'avait envoyé en mission, celui qui m'avait témoigné, il devait partir de Bordeaux pour un temps. Mais ils m'ont vite connecté avec Albert. Et Albert, ayant entendu que quelqu'un avait accepté le Seigneur, il est venu taper à la porte de ma chambre pour prendre le relais. Voilà. Et depuis, nous sommes restés amis. Je m'appelle ami infidèle. Pour ceux qui me connaissent, ils sauront que c'est vraiment vrai, ça. Je ne fais pas toujours tout pour entretenir l'amitié. Mais j'ai une confiance totale dans ce qu'il m'a montré après toutes ces années qu'il est vraiment un ami. Et je remercie le Seigneur aussi pour l'amitié fraternelle. Nous allons prier le Seigneur. Et j'aimerais vous inviter de préparer votre passage pour la lecture en 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 18. Regardez aux choses invisibles, une vocation salutaire. J'étais très content quand j'ai entendu dans une prière quelqu'un demander ça au Seigneur ce matin. Dans une prière, j'ai entendu, Seigneur, nous voulons regarder aux choses éternelles, car les choses éternelles sont invisibles. J'ai entendu exactement cette phrase ce matin. Je me suis réjoui en entendant cette prière. Donc c'est une demande, et le Seigneur veut nous exhorter aussi dans ce sens-là. Alors nous allons lire ce passage, mais prions avant. Merci encore, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour tant d'amour et cette chose merveilleuse qui a commencé avec toi le jour où tu es venu vers nous. Tu nous as cherchés. Dans mon cas, et pour plusieurs d'entre nous, nous ne voulions même pas de toi. Nous avons même cherché à te repousser. Mais Seigneur, tu as ouvert nos yeux, tu as fait tomber les écailles. Tu nous as saisis. Et depuis ce jour, nous sommes saisis par toi. Et nous avons ce privilège, cette joie d'avancer avec toi et d'apprendre encore. Nous sommes persuadés que nous avons encore beaucoup, beaucoup à apprendre, quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience. Nous voulons encore recevoir de toi ce matin, chacun pour sa part, du plus petit jusqu'au plus grand. Nous nous attendons à toi. Et notre prière, c'est que tu puisses nous parler, nous enseigner, persuader aussi notre cœur. Ça ne sera pas des paroles que nous entendions et que nous repartions avec « est-ce que c'est vraiment comme cela ?» avec des questionnements, mais avec cette certitude que tu as voulu nous dire telle chose, que tu t'es adressé à nous et que tu nous as parlé de telle et de telle manière, que ton esprit agisse ainsi au milieu de nous. Je me remets entre tes mains avec toutes mes faiblesses et je veux te bénir pour ta fidélité, celle que tu as montrée envers moi tout le long du chemin. Béni sois-tu. Loué sois-tu, gloire te soit rendue, en Jésus-Christ. Amen. Donc lisons donc en 2 Corinthiens, deuxième épître de Paul, aux Corinthiens chapitre 4, et nous lirons des versets 7 à 18. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdu, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternels. Quelle grande vérité des Écritures et quelle école du Seigneur pour nous. Et pour ma part, j'ai pu reconnaître depuis très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, je peux encore dire ça, comme c'est difficile à entrer cette leçon, à acquérir cette habilité, à pouvoir, presque ce réflexe, à pouvoir, dans une situation donnée, à être focalisé sur les choses essentielles, sur les choses éternelles, et à ne pas laisser la chose qui apparaît à l'instant, la chose passagère, à ne pas laisser ça prendre un poids que ça ne doit pas avoir. Et tout récemment, j'étais encore dans cette difficulté-là. Et très souvent, ce qui se passe, c'est l'effet de surprise, qui fait que parfois on a du mal, comme si on s'est fait surprendre, on a du mal à ne pas rester fixé là, sur cette chose qui tout d'un coup arrive et nous fait presque rentrer en panique et à nous rappeler ce que nous avons, ce qui est stable, ce qui est ferme, ce qui ne bougera jamais, malgré cette chose qui apparaît là et qui semble vouloir me dire le contraire de ce qui est. C'est toute notre vocation. C'est pour ça que j'ai intitulé cela une vocation du croyant, mais une vocation salutaire. Pas salutaire dans le sens du salut pour être sauvé, mais pour marcher comme nous sommes appelés à marcher et nous approprier, saisir les promesses du Seigneur. Vous avez peut-être remarqué, certainement, mais si vous faites attention, même si vous ne l'avez pas remarqué, que vous revenez un petit peu en arrière, vous allez vous rendre compte la place et l'importance du thème de la vue, du regard, dans toutes les Écritures. Et à chaque fois, vous allez vous rendre compte tout l'enseignement qui accompagne cela. Mais je vous assure, et certainement pendant que je vous dis ça, je suis sûr que vous êtes capable, pour tous ceux qui sont en contact avec la Bible, qui lisent la Bible, vous êtes capable de rassembler des passages bibliques avec ce thème-là et son enseignement. Et Dieu, il sait très bien combien il faut nous parler de cela, du regard, de la vue, de l'importance de ce que je vois. Je pense à beaucoup de choses en ce moment que je vais citer un petit peu en voir. Mais je pense notamment à la manière dont Dieu utilise son serviteur, les prophètes, ses serviteurs, les prophètes. Et il avait pour habitude parfois de leur donner une vision. Et par exemple, il va lui poser la question, il donne la vision, il dit « Que vois-tu ?» Et le serviteur, il dit tout simplement la chose visible, la chose passagère qu'il voit. Et Dieu lui dit « C'est vrai, tu as bien vu. » Mais il va lui donner ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire en réalité spirituellement ce qu'il faut voir avec cette chose de votre monde, du sensible que tu es en train de voir, il va transporter son serviteur plus loin avec un enseignement, une réalité des choses éternelles qu'il doit comprendre. Tu vois une branche d'olivier, tu as bien vu, je veille sous ma parole pour l'exécuter. Un grand enseignement biblique. Et on a beaucoup de passages comme ça. On a cette parole du Seigneur qui dit simplement l'œil est la lampe du cœur, du corps. L'importance du regard, de la vue. Et je pense encore à ce passage des Écritures que peut-être nous exploiterons un petit peu plus tard encore. Pierre qui marche sur les eaux, sur le commandement du Seigneur. Et puis tout d'un coup, il voit, ses yeux voient quoi? Les choses passagères, les choses de ce monde, bien sûr c'est une vague. Il est en train de vivre une expérience formidable et il voit une vague et ça gâche tout. Parce que les regards à ce moment-là n'étaient plus concentrés sur celui qui a dit viens, je suis d'accord, viens et marche sur les eaux. Mais ses regards prennent en compte la circonstance du moment qui arrive et qui semble lui dire c'est plus possible de marcher sous les eaux. Je suis là, moi, la vague. Je suis là, moi, l'adversité. Je suis là, moi, l'épreuve. Je suis là, moi, l'affliction. Et le Seigneur veut nous apprendre que non, il fallait continuer. Tu pouvais continuer à marcher. Il vient à notre secours à chaque fois que justement nous laissons justement la chose de ce monde qui passe, auquel nous accordons tellement d'importance. Et il nous tire de là. Et puis il nous apprend quelque chose. Je viens d'expérimenter cela. Parfois on a le sentiment, d'accord Seigneur, maintenant, avec cette fois-ci, j'ai compris. Et puis il y a une autre étape, et on a encore à apprendre à nouveau la leçon. Vous savez, dans le contexte du passage de ce texte, l'apôtre Paul, il va même le dire un petit peu plus haut à un moment. On va juste le lire au chapitre 2. Il va dire un petit peu l'état d'âme dans lequel il est et qu'il écrit cette lettre aux Corinthiens. C'est dans un contexte où il y a de la méfiance vis-à-vis de lui qui commence à naître et on remet en question carrément son ministère, qu'il avait tant à cœur et qu'il aimait tant. Et à un moment, dans cette lettre, il leur dit, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Et il faut essayer de se mettre un petit peu en situation. Quelqu'un qui est investi de la puissance de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu et tout le travail qu'il était en train d'accomplir à l'œuvre du Seigneur. Mais il y a des situations aussi, par exemple avec l'église de Thessalonique, son cœur était réjoui de ce qu'il voyait et il l'écrit très bien. Ça se passait très bien. Mais pour d'autres, notamment les Galates par exemple, il avait beaucoup de peine et c'était un grand combat qui s'engageait. Mais ce qui est formidable, c'est quelqu'un qui avait appris, et il le dit lui-même, il avait appris à être stable. On a envie de se demander après combien de temps d'expérience dans le Seigneur vraiment, hein? Il y a une manière de connaître à peu près. Mais il avait appris à être stable, quelle que soit la situation. Hein? Dans les bons moments, quand tout semble marcher bien, mais aussi dans les mauvais moments, quand tout semble s'écrouler, que rien ne va. Il avait appris, il dit même, à être content. À être content. Et on peut reconnaître une chose, que quand il va parler comme ça, avec cet état d'âme, il n'a rien lâché. Il n'est pas juste quelqu'un qui est là en se disant, mais tout est perdu. Il a de la peine, mais son amour n'a pas changé pour eux. Et il va leur écrire comme quelqu'un qui est en train de combattre un grand combat encore pour eux. Et il va leur décrire par rapport à précisément son ministère qui est contesté. Il va leur rappeler, c'est tout ce propos dans le passage là, avec quelle force il combat. Et il va rappeler, qui est notre thème de ce matin, il va rappeler cette faiblesse qui nous est propre. Quand il dit « nous portons ce trésor dans des vases de terre », c'est une manière de rappeler toutes ces limites que nous avons, toutes ces obstacles que nous pouvons rencontrer en face desquels nous nous sentons si petits et si faibles parfois. Et il les mentionne en parlant de cette réalité. Nous sommes pressés de toute manière, mais par la foi. Et j'ajoute ceci, par la foi, parce que sans la foi, on ne peut pas le voir comme ça. Pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Je dis ça parce que dans certaines situations, moi qui suis encore à l'école, après tant d'années de marche, d'expérience avec le Seigneur, il y a des moments où je ne vois pas que je suis pressé, mais pas réduit à l'extrémité. Et des moments où j'ai presque le sentiment que là, je suis réduit à l'extrémité. L'apôtre Paul, à un moment, il a un petit peu pensé comme ça. C'est-à-dire, il a dit à un moment qu'ils étaient dans une épreuve telle, lui-même qui avait annoncé et dit par l'Esprit du Seigneur qu'aucune tentation, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. À ce moment-là, dans cette situation-là, il avait le sentiment que c'était au-delà de ses forces. Mais il a dit une chose, ça leur a donné l'occasion, c'était une école du Seigneur, une circonstance pour qu'ils puissent encore apprendre dans une extrémité pareille à continuer encore à compter sur Dieu. Et c'est ça l'école, à compter sur Dieu, celui qui ressuscite les morts. C'est-à-dire qu'il dit à un moment, nous avons même désespéré d'échapper à cette situation. Mais il exprime le fait par la foi que ce ne serait pas fini quand même. Et il dit, parce que Dieu est celui qui ressuscite les morts, et si nous devions passer, eh bien, il est celui qui pourrait nous ramener même, s'il fallait encore continuer son travail. Mais quelle foi dans la puissance de Dieu. Quelle confiance dans la puissance de Dieu. Et ce qui nous empêche de nous projeter et d'apprendre à regarder aux choses visibles, c'est qu'il semble des moments dans notre marche, arriver à une certaine situation, où nous pensons vraiment, c'est fini. C'est fini. Et on ne voit pas comment on peut encore continuer à espérer parce qu'on dit, par exemple, cette chose que j'avais demandée, là c'est clair que je ne l'ai pas obtenue. Ou cette chose que nous attendions, là c'est clair que c'est fini, on ne peut plus s'attendre à la voir. Mais vous savez, il y a une manière de pouvoir faire confiance au Seigneur et d'espérer jusqu'à la dernière extrémité. Et même quand vous vous rendez compte que tout semble vous dire que c'est fini. Nous avons un épisode des Écritures qui nous mentionne ça. On ne va pas le regarder, je vais le résumer brièvement. Mais la mort de Lazare est là pour nous enseigner ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, quand on l'a envoyé chercher, il aurait pu vite courir et venir vite avant que Lazare meure. Hein? Comme si Dieu, s'il ne s'y prend pas au bon moment, après il est coincé, il ne peut plus rien faire. Et vous savez, si on l'a envoyé chercher un petit peu comme ça, vous savez comment nous faisons, hein? C'est un petit peu normal. Hein? Quelqu'un, il y a une urgence là, on ne va pas juste prendre tout le temps, hein? Puis on va. C'est bien si on fait comme ça, il faut faire vite. Et le Seigneur, il continue encore sa mission. Il a entendu, mais il ne se précipite pas au chevet de Lazare qui est mourant. Et puis Lazare meurt. Et puis il est bien mort. Parce que nous avons pour preuve de cela que le corps sent déjà. C'est pas trop tard pour Dieu. Et le Seigneur parle à Marthe qui vient désespérée, comme en exprimant que voilà, c'est fini. C'est fini, c'est trop tard. Et le Seigneur lui parle en disant que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardez aux choses invisibles, c'est salutaire. Comment je peux encore croire? Il est mort. Et Marthe lui dit ça. Elle a bien envie de croire, mais elle me dit, Seigneur, il est mort et puis il sent déjà. Et parfois, c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Nous avions un objectif et nous avions compris que c'est le Seigneur qui nous a appelés et qui a déjà même commencé à montrer et à manifester qu'il est en train de faire ceci. Nous le croyons bien au départ, nous commençons et puis ensuite arrive la vague. Et puis il semble que tout est en train de se renverser. La vague n'était pas là par hasard, hein, celle qui a fait paniquer Pierre et s'enfoncer. Dieu est maître de toutes choses. Il aurait pu ne pas envoyer la vague à ce moment-là pour ne pas éprouver celui qui avait déjà commencé à manifester de la foi. Mais vous savez, à chaque fois, ce qu'il veut faire, c'est nous emmener un peu plus loin. Et vous savez que c'est ça que nous sommes empêchés souvent de voir. Que quand l'adversité est là, c'est pas que Dieu veut me faire des reproches par rapport à telle ou telle erreur que j'ai faite. Vous appelez les disciples, il dit, le Seigneur nous parle comme ça parce qu'on ne s'est pas organisé comme il fallait. Il est en train de nous faire un reproche. Le Seigneur n'était pas en train de le faire des reproches. Il voulait manifester la gloire de Dieu. Et il voulait les emmener plus loin. Et parfois, nous sommes comme ça. Nous baissons la tête, découragés, les yeux fixés sur cette chose-là qui est une chose passagère. Et nous l'analysons, elle. Et nous tirons des conclusions parce que nous sommes fixés uniquement sur la chose qui passe, qui est là pour un moment, plutôt que de fixer les regards sur le Seigneur et avec lui apprendre à voir la leçon à tirer de cette situation. Je vous parle de moi, hein, je ne suis pas en train de parler comme quelqu'un qui sait faire ça. Je vous ai dit tout à l'heure que je ressors précisément tout récemment d'un épisode comme ça de ma vie, où je n'ai pas vu comment je peux continuer avec cette chose qui m'a tellement, tellement surprise. Et le Seigneur, à chaque fois, il fait ça pour moi. Il a fait peut-être la quatrième fois qu'il le fait avec des grands événements. Il vient à un moment, j'étais là et je ne savais pas comment j'allais pouvoir continuer. Et puis, il se passe un moment, quelque chose, à travers un message, un jeune frère a donné. Tout récemment, j'étais déjà en train de m'en sortir, mais c'est comme si là, il m'a saisi. Et puis, j'ai ressenti justement comme un fardeau qui tombait. Et à travers juste une parole, une exhortation sous l'action de grâce. Et pendant qu'il donnait sa prédication, il avait juste cité un passage qui peut paraître même banal. Mais quand nous sommes exhortés à faire des supplications avec des actions de grâce. Et lorsqu'un j'ai entendu ça, pendant qu'il continuait, je suis resté avec cette parole des Écritures. Faites des supplications avec des actions de grâce. Et j'étais là en méditant sur le « avec des actions de grâce ». Pourquoi c'est rajouté « avec des actions de grâce » Et ce qui m'est apparu à ce moment-là, c'est que, ben oui, parce que si on fait des supplications, et qu'en même temps qu'on demande à Dieu, on ne sait pas être reconnaissant pour ce qu'on a déjà reçu, on est là en train de demander comme des gens qui sont démunis de tout, alors que nous avons tout pleinement en Christ. Donc quand je demande quand je prie pour telle requête, eh bien, je vais venir à Dieu comme celui qui est conscient qu'il a reçu déjà l'essentiel, le plus important. Et Dieu, à un moment, il nous parle comme ça. Il dit, si il nous a donné son Fils, si Christ est mort pour nous quand nous étions sans force, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas maintenant toutes choses? Il faut qu'on puisse imprégner ça en nous et laisser le Seigneur nous conduire de cette manière-là. Nous le laisser prendre notre tête et garder nos regards sur précisément pas ce qui s'impose à moi, là, devant moi, mais ce sur quoi il veut que j'aie mes regards, c'est-à-dire les choses qui ne passeront jamais, les choses éternelles, qui précisément sont les choses qui n'apparaissent pas à l'œil du corps matériel, mais qui peuvent être vues par les yeux de la foi. Maintenant, nous allons juste à ce verset 17 et voir cette sorte d'équation qui est possible précisément pour celui qui a été à cette école-là. Et l'apôtre Paul le dit comme d'une manière, comme si c'était une vérité pour tout le monde. Il dit, parce que dans un sens, il faut comprendre que par vocation, il y a des vérités qui sont les nôtres. C'est notre vie et c'est des choses parfois qu'il faut, pas parfois, ce sont des choses tout simplement qu'il faut qu'on apprenne à nous approprier en se disant, oui, mais c'est comme ça. C'est déjà ce que Dieu a fait et c'est à moi maintenant de rentrer là-dedans, de marcher comme cela. Et il exprime ceci en disant, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà même, au-delà de toute mesure. On a envie de demander, mais est-ce qu'il n'exagère pas un peu ? Mais il exprime, et c'est pas là par hasard, ce complément, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, et il exprime pourquoi cette équation est possible. Et cette équation est possible parce que nous regardons aux choses visibles, mais non à celles qui sont invisibles. Et on comprend là que c'est ça notre vocation. D'ailleurs, nous marchons par la foi, n'est-ce pas ? Nous sommes appelés à l'aimer sans l'avoir vu, n'est-ce pas ? Et toute notre marche, dès le premier moment, Dieu nous a appelés, nous a invités à regarder à l'invisible. Il y a quelque chose que, je ne sais plus à quel moment de ma marche, ma vie chrétienne, ça m'est apparu. Je ne me rappelle plus même si c'est après avoir écouté, entendu une prédication. Mais c'est cette réflexion que font certains. Lorsque vous essayez de leur parler, amener à Christ, parler de l'évangile, annoncer l'évangile, et ils disent, mais est-ce que tu l'as déjà vu ? Je ne l'ai jamais vu. Quand je le verrai, je croirai. Vous savez, pendant longtemps, j'ai écouté ça sans presque savoir répondre à ceux qui me disaient ça. Mais vous arrêtez un instant et vous réfléchissez un peu sur cette parole, sur ce raisonnement. Quand je le verrai, je croirai. Il y a un problème, c'est quoi croire ? La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc le problème, c'est que le jour où tu vas le voir, tu ne pourras plus croire. Ce sera trop tard. C'est quand tu ne vois pas qu'il faut croire, que tu peux croire même. Donc ça n'a pas de sens de dire, quand je le verrai, je croirai. Quand tu le verras, ce sera trop tard, tu ne pourras plus rien faire. Et Dieu a prévu la foi comme moyen. Il a prévu la foi comme moyen pour accéder à la grâce. C'est lui qui a décidé comme ça. Il aurait pu choisir un autre moyen. J'aurais pu être devant vous un grand physicien, un grand mathématicien ce matin qui est en train de vous démontrer Dieu par une sorte de calcul et tout ça. Et ensuite, votre raisonnement se serait satisfait. Vous allez dire, maintenant j'accepte. Ah, je crois. Mais j'accepte. Il n'a pas fait comme ça. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication et la démarche. Pour y répondre, le moyen, c'est la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, l'invisible. Donc, dès le départ, Dieu nous a introduits dans l'invisible. Et il faut qu'on apprenne et qu'on accepte de continuer comme on a commencé. C'est-à-dire, en ne voyant pas. Et Dieu ne s'amuse pas avec nous. Vous savez, à un moment, j'ai presque pleuré. Et je me disais, et je pensais même à un verset biblique. Parce que je me disais, pourtant, c'est écrit, voilà, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ah, c'est un des premiers versets que j'ai mémorisé. Et il me parlait souvent ce verset-là. Donc quand Dieu donne, après tu n'as pas à craindre que, voilà, que ça va se renverser et tout ça. Et puis il m'est arrivé à un moment que une bénédiction, une réponse à ma prière, et même je partage ça à l'église, tout content. Et puis plus tard, j'apprends que c'est des faits. La chose que j'ai déjà annoncée, que Dieu m'a béni, maintenant il faut que je retourne en disant que, eh bien voilà, ils sont revenus sous la décision. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me met en confusion. Vous savez, quand on ne sait pas ou qu'on n'accepte pas de marcher en regardant à l'invisible, vous allez être en grande difficulté avec ça. Et vous allez dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu me fais là? Je ne comprends plus. Vous allez même trouver que Dieu est méchant. Ou vous allez dire, eh bien, j'ai un gros problème dans ma vie. J'ai dû vraiment faire un gros péché que j'ignore pour que Dieu il me traite comme ça, qu'il me punisse comme ça. Alors qu'il est en train de vous emmener plus loin. Et vous savez combien c'est précieux pour Dieu de faire ces choses dans nos vies, d'obtenir un peu comme l'apôtre Paul qui avait appris et qui pouvait dire que maintenant il se... Comment s'est exprimé? Il se réjouissait, il se glorifiait de sa faiblesse. Parce qu'il avait vraiment compris que quand il est faible, c'est alors qu'il est fort par son Seigneur. Toute la gloire à lui. Et vous savez combien c'est précieux pour le Seigneur de nous montrer ça. Je vous le dis comme ça, comme quelqu'un qui a compris. Et je sais très bien que j'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus. Mais je suis content parce que je sais que le Seigneur fera son travail. Il continuera avec moi, il ne m'abandonnera pas. S'il faut encore des épreuves, s'il faut encore des choses justement pénibles, des vagues, je le dis, hein, j'ai pas envie de dire que je le dis avec joie, mais je devrais dire ça, que je le dis avec joie, parce que c'est à cause du but qui s'est fixé. Et comme nous l'avons lu et que je vais le relire avec vous, c'est à cause de ce grand but, parce que cela produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Et nous allons regarder un autre passage en 1 Pierre, que peut-être vous connaissez très bien. 1 Pierre chapitre 1, c'est cette même pensée qui est exprimée là. 1 Pierre chapitre 1. Béni soit Dieu, verset 3. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage, invisible encore, n'est-ce pas? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez éprouvés, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous allons continuer et terminer avec cette sorte de démonstration, parce qu'en réalité, ce que j'ai compris et que je vois qu'il me met en difficulté, je pense qu'il nous met en difficulté, c'est cette sorte d'habilité que nous n'avons pas encore à apprendre, à non seulement à voir les yeux sur ces choses invisibles dont il est question, mais aussi à les apprécier comme à leur juste valeur. À leur juste valeur. Je ne sais pas qu'est-ce que certaines expressions de la parole font en nous, comment on les reçoit, et ce que ça signifie pour nous. Par exemple, quand on va nous parler de ces louanges que tout le peuple de Dieu, avec l'armée des cieux, sera en train de donner au Seigneur, à Dieu, au Créateur, sera en train de donner lorsque nous serons dans sa présence. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, ces louanges? Est-ce que c'est quelque chose véritablement que je pèse, je vois comme tellement précieux, comme tellement grand, qu'au fur et à mesure de ma marche, j'ai constamment ça devant moi et je sais que je voyage en direction de cela. Il y a tellement des choses de la terre qui prennent trop souvent la place de ça et puis je suis là à organiser ma vie en étant en train de poursuivre telle chose qui passe. Et cette chose qui passe prend une importance telle, prend mon énergie à un point tel que je suis concentré dessus et que ça remplit toute ma vie. Parce que c'est si important pour moi que je ne veux pas mourir avant ça. Ça fait sourire, mais c'était comme cette personne qui demandait presque au Seigneur de ne pas encore revenir, de lui laisser le temps de se marier. Parce que le mariage, à ses yeux, c'était... Mais le mariage, c'est passager, hein. La Bible nous dit, ça fait partie des choses passagères, des choses visibles. Je viens d'aller à un mariage hier. Hein? Donc, je ne suis pas en train de dénigrer le mariage. On sait, parce que hier, j'ai même parlé justement de la valeur du mariage et du fait de ne pas trop peu faire du mariage, non pas trop en faire aussi. Mais le mariage, c'est quelque chose de passagère. Mais quelqu'un a vraiment eu ce raisonnement-là, à un moment, de souhaiter que... Et je vous avoue, je suis en train de penser que je l'ai un peu eu ça aussi, dans ma jeunesse. Donc, je ne suis pas en train de regarder l'autre en le jugeant, hein, qu'est-ce que je l'ai aussi eu un peu. Parce que j'ai regardé le mariage comme cette expérience que j'avais depuis tellement longtemps attendue. Et puis, quand c'est arrivé, je peux vous assurer, j'étais dans un état. Et puis, après, on découvre que tu étais tout fou, hein, comme un enfant qui a son jouet neuf, tu étais tout fou. Et qu'est-ce que tu en fais après avec le mariage? Bien souvent, hein, cette chose qu'on a tellement regardée, et après, ça finit par devenir banal. Hein, mais il faut pas. Mais voilà, des choses passagères prennent une telle place, prennent tellement notre énergie et ça prend la place de ces choses invisibles, éternelles, qui devaient être là comme visibles. Et l'apôtre dit ça, notre vocation, c'est que cet invisible soit rendu visible par la foi. Que je puisse m'entretenir, quelle valeur ça a de se réunir pour simplement célébrer Dieu ensemble le dimanche. Combien de choses parfois prennent la place de ça? Je ne pourrais pas venir dimanche parce que je reçois à la maison telle personne, parce qu'il y a le match de foot, parce qu'il y a ceci. Alors, je ne pourrais pas venir le dimanche. Des choses qui passent. Et des choses, justement, qui seront notre occupation pour l'éternité, c'est loin, loin, loin de nous. Que le Seigneur nous donne ça, c'est ma prière. Et j'ai entendu que c'était une prière ce matin, de ce côté de la salle, que le Seigneur, justement, nous donne. D'être de ceux qui sont exercés de plus en plus, comme disait l'apôtre, à apprendre à regarder aux choses invisibles. Je vais regarder, et on va regarder trois passages des Écritures avec des exemples des choses invisibles dont la parole de Dieu nous parle. Je pourrais citer comme ça d'abord ce passage des Écritures en Colossiens qui nous dit aussi une chose, qui dit en réalité, notre réalité de vie, ce que nous sommes, ça n'apparaît pas, c'est caché. C'est-à-dire, tout ce qui nous concerne véritablement, profondément, ça n'apparaît pas à tout le monde, ça n'apparaît pas comme ça. Il dit, notre vie est cachée en Christ. Et il dit, même pour nous-mêmes, c'est lorsque Christ apparaîtra que ce sera mis en évidence ce que nous sommes véritablement. Donc, quelque part, même nous avons un peu de difficulté à apprécier même ce que nous sommes. Mais un jour, oh là là, au bonheur. Et je pense que c'est ça qui va donner un accent tout particulier à notre louange à ce moment-là. Quand nos yeux vont s'ouvrir vraiment, pour contempler ce que nous sommes vraiment en réalité. Peut-être si nous avons du mal avec tel frère, telle sœur, parce que nos yeux sont braqués sous telle faiblesse, sous telle imperfection, et qui nous font oublier que c'est un frère en Christ, l'Esprit de Christ est dans cette personne. Mais quelle gloire, quelle richesse. Parfois, nous sommes vite appelés à amener à douter même de ce que l'Esprit de Christ est vraiment en lui. Même si parfois, cela apparaît par les différents dons, par la manière dont le Seigneur va utiliser telle ou telle personne. Et puis telle erreur qu'elle va faire, telle bêtise qu'elle va faire peut nous faire vite oublier. Voilà, on a presque envie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Apprenons à ne pas faire ça, de nous rappeler. Mais quelle gloire lorsque quelqu'un a l'Esprit de Christ. C'est un frère, c'est quelqu'un de la famille de Dieu. Mais quel trésor, avec toutes ses imperfections, ces choses qu'il n'a pas encore comprises, que je puisse apprendre avec le Seigneur à regarder à cet invisible dans l'autre et à louer le Seigneur pour la trace de la main de Dieu que je vois dans cette personne même aussi imparfaite qu'elle puisse être, que le Seigneur nous exerce à ça. Maintenant, regardons donc par exemple en 1 Pierre au chapitre 1, verset 4. Nous sommes dans le passage. C'est cet héritage qui s'est exprimé ici, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Combien ça apparaît visible devant nous, tout ce que nous avons qui nous attend dans le ciel. Et je mets à côté de cela en Jean au chapitre 14, on va le lire tout de suite, Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Je vous donne là quelques exemples, mais j'espère que vous avez déjà remarqué qu'il y a une profusion d'exemples de ceci-là. Il suffit de lire le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, j'ai relevé un passage en Apocalypse aussi. Mais lisez souvent le livre de l'Apocalypse. Ne dites pas, vous ne comprenez pas. Et puis prenez tout simplement, comme vous le lisez, certaines promesses qu'il nous a faites, certaines choses qui sont dites de ce qui nous attend dans le ciel. Même si vous ne comprenez pas tout à fait ce que ça veut dire, même si vous n'êtes pas si sûr qu'il faut le prendre littéralement ou symboliquement, même en le prenant symboliquement, mettez-le devant vos yeux. J'étais content ce matin quand nous avons chanté ce chant qui a rappelé que un caillou blanc, un nom nouveau, je ne sais plus quel cantique nous avons chanté, ce sont des réalités invisibles qui nous concernent, dont Dieu nous parle et nous enverrons quelques expressions. Mais en Jean chapitre 14, peut-être vous y êtes déjà, je ne suis pas moi, 14 versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Combien de fois ça apparaît devant vos yeux, cet invisible-là? Combien de fois nous nous exhortons en nous rappelant le fait que nous avons une place, même si nous ne pouvons pas décrire dans le détail comment ça va se faire véritablement, mais en plus le Seigneur dit, si ça n'était pas, je vous l'aurais dit. Autrement dit, si je vous le dis, c'est parce que c'est comme ça. Ne doutez pas de cela. Vous avez vraiment une place que je vais vous préparer dans le ciel. Et combien c'est dans le champ de notre vue? Combien de fois nous placer ça devant nous pour pouvoir justement ne pas perdre courage? Parce que c'est cette démonstration qui est faite. Souvent, quand nous perdons courage, c'est parce que notre réalité, ce que nous sommes véritablement, nous sommes en train de le perdre de vue. Et nous laissons la réalité du moment apparaître comme la chose éternelle. Et on a le sentiment que voilà, mais c'est ce que je suis et c'est là que je vais rester. Le Seigneur nous donne plusieurs solutions pour ne pas laisser justement cette vague-là nous écraser et nous enfoncer. Et entre autres, projette ton regard et rappelle-toi l'œuvre de Christ, pas ce que toi tu as fait, mais l'œuvre que le Seigneur a accomplie et cette réalité de vie que tu as parce que tu es en Christ. Plusieurs demeurent dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et lorsque je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Combien de fois nous plaçons devant nous comme quelque chose de tangible, presque visible, le fait que nous serons vraiment avec Dieu? Parfois, on dit, mais tu es esprit, qu'est-ce que ça signifie vraiment que je serai? Comment je serai avec Dieu? Essayez d'écarter tout ça, de ne même pas faire une étude biblique de ces paroles-là, et de vous dire, je serai avec Dieu, comme un trésor, comme quelque chose de réel, de tangible, et vous allez voir la consolation que cela vous apportera. Et puis le dernier passage pour nous, c'est en Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21. Je lis verset 3. Et je vous encourage à lire tout le livre de l'Apocalypse, surtout vers les derniers chapitres, pour voir combien de fois le Seigneur nous mentionne ces réalités qui nous attendent, ces choses que nous ne voyons pas encore, mais qui sont belles et bien préparées et là pour nous attendre. Et la question c'est, quelle valeur nous leur accordons? Est-ce que c'est quelque chose où je ne m'occupe pas de ça parce que je ne sais pas trop ce que ça signifie? Quelqu'un m'avait dit une fois, lorsque j'avais le sentiment que la personne ne comprenait pas du tout l'Évangile, c'est quelqu'un qui est très religieux, c'était une femme, religieux qui très assidu dans sa religion et qui lisait beaucoup la Bible. Et à un moment, je me rendais compte que l'évangile du salut, la personne rejetait. Parce qu'elle associait justement à Christ tout un tas d'autres sauveurs aussi. Hein, une personne qu'elle prenait, qu'elle invoquait, qu'elle prenait comme aide et qu'elle disait, elle a fait beaucoup pour moi. Vous devez comprendre de qui je veux parler. Elle a fait beaucoup pour moi. Personne ne me fera l'abandonner parce qu'elle a fait beaucoup pour moi. Et quand on essayait de lui montrer que toutes ces paroles qui disent qu'il n'y a pas donné, qui n'est pas été donné sous le ciel un autre nom par lequel nous pouvions être sauvés, elle lisait ça, mais elle le comprenait autrement. Et un jour, je lui ai parlé précisément, simplement, de la résurrection de notre corps. Et je lui ai posé la question justement, ce qu'elle. Vous savez, j'étais très surpris de la réponse. Parce que la réponse était, ah moi, ces choses-là, ce n'est pas des choses dont je m'occupe. C'est-à-dire la résurrection, les promesses justement de notre salut et de notre résurrection, c'était mis de côté. parce que c'est trop compliqué, on ne peut pas réaliser. Et ça m'avait beaucoup peiné parce que ça me confirmait le fait que la personne, justement, n'était pas rentrée dans les promesses du Seigneur. Et vous vous rendez compte, quelqu'un de très religieux, qui lit la Bible assidûment, parce qu'il faut savoir qu'il y a une lecture superstitieuse de la Bible. Certaines personnes qui pensent que rien que par le fait d'avoir lu la Bible, même si on n'a rien compris, c'est d'avoir lu telle page ou tel nombre de pages, voilà, il y aura des bénédictions qui vont découler. Mais quand on lit la Bible, c'est avec intelligence, en priant même que Dieu touche notre intelligence pour que nous voyons de l'invisible, justement, dans sa parole. Alors, lisons Apocalypse 21, verset 3. « J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. » Et Dieu lui-même sera avec eux. Regardez cette insistance pour parler de cette union, de cette proximité avec notre Créateur comme chose à venir, que nous ne voyons pas encore, que nous ne vivons pas encore dans une certaine mesure. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Je ne sais pas s'il vous reste encore des larmes. Moi, les larmes coulent très difficilement sous ma joue. De mes yeux, ça arrive, mais ça n'arrive pas comme ça. Mais vous savez, elles existent même quand elles ne sont pas visibles sous vos yeux, sous votre paupière. Et il y aura des larmes, il y a une consolation que nous allons... Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Est-ce que nous le regardons comme des promesses, des choses qui sont à venir, des réalités qui ne sont pas là comme pour le palper, quoique il y a une consolation que nous vivons déjà de la part du Seigneur. Il en est question dans les Écritures. Mais cette sorte de consolation finale, consolation totale, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien, plaçons-les devant nous, pas comme quelque chose de vague et de lointain, et exerçons-nous avec la grâce que Dieu donne de pouvoir regarder aux choses invisibles. Et un dernier passage, un peu plus loin, en Apocalypse 22, et il me montra un fleuve d'eau vive de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sous les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Encore une répétition de cette connexion avec Dieu, proche de Dieu, du fait qu'on verra Dieu. Et ne me demandez pas de vous expliquer comment on verra Dieu. C'est l'exercice que je vous ai proposé. Cherchez pas à faire une étude biblique, mais cherchez à répéter et à confesser ce que Dieu vous a dit qu'il va faire, même si vous ne comprenez pas totalement comment cela se passera. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur le front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Regardez aux choses invisibles une vocation salutaire. L'apôtre a bien présenté que c'est précisément parce que nous regardons aux choses invisibles que les afflictions du temps présent deviennent des choses légères. Et d'ici elles deviennent des choses légères, c'est parce que nous visualisons, nous figurons les choses qui sont dans une proportion par rapport à la chose que nous vivons, beaucoup plus grande mesure éternelle de gloire. Et c'est parce que précisément, ça pallie cette chose que souvent Christian regarde comme tellement énorme qu'il ne peut même plus avancer, qu'il ne voit pas comment il va pouvoir continuer, parce que c'est tellement énorme. Je veux que le Seigneur m'apprenne encore à ce que cela pallisse, que cela soit vu avec les yeux, avec mes yeux physiques, que cette chose-là soit vue comme une toute petite chose. Il y a un frère qui m'a montré ça hier, et je partage tout de suite avec vous, c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Hein. Quand quelque chose est frais, j'ai beaucoup du mal à ne pas le partager, surtout s'il sert au contexte. Je parlais avec un frère que je connaissais depuis quelque temps, mais presque de loin. Il faut savoir que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de sortir de Bordeaux. Je l'ai fait un petit peu avant, mais ces 10-15 dernières années, ça m'est arrivé très peu. Non, c'est un frère avec lequel j'étais en communion un peu à distance par ses lettres de nouvelles, par aussi une littérature aussi qu'il propose, qu'il distribue. Et je m'étais préparé à parler un peu avec lui. Je voulais même plus que je l'ai fait, mais j'ai parlé quand même pas mal avec lui. Et il a eu l'occasion, je lui ai demandé de me raconter un peu son témoignage. Je vous encourage à faire ça entre vous. De temps en temps, justement, quelqu'un prenne et rappelle, en donnant gloire à Dieu, hein, vous avec cet objectif-là, comment le Seigneur, comment il a commencé avec le Seigneur et comment ça s'est suivi. Et ce frère qui est affaibli par la maladie, il m'a raconté comment le Seigneur l'a amené à lui. Il était encore jeune et il était le premier qui a été touché par la grâce du Seigneur dans sa famille. Et il a eu, comme beaucoup d'entre nous, l'opposition de sa famille. Il y a eu même un conseil de famille à l'occasion de sa conversion, où on est venu vers lui maintenant pour lui dire, voilà ce qui t'arrivera si tu veux continuer dans cette direction-là. Et puis il avait fait son choix et il a continué jusqu'à ce jour. Et ce frère nous a raconté, je connais pour ma part justement plusieurs difficultés auxquelles il a été confronté. Et je lui ai posé la question qu'avec tout cela, parce que c'est quelque chose qui... Et je l'écoutais attentivement à la réponse. Comment il faisait? Et puis quelqu'un à côté avait répondu par la grâce du Seigneur. Moi, ça ne me suffisait pas. Moi, je voulais qu'il me dise. Et il avait compris ma question, lui. Mais quelqu'un à côté, quand la personne a entendu ma question, a répondu à sa place. Mais par la grâce du Seigneur, il a fait. Et lui, il a compris le sens de ma question. Il a commencé à m'expliquer un peu. Mais il m'a dit une chose. Il m'a dit, en fait, c'est pas mon œuvre. C'est pas mon travail. C'est l'œuvre du Seigneur. Donc, quand il y a toutes ces oppositions, toutes ces... Il le disait, et ça retentissait chez moi, parce qu'il l'avait démontré. Connaissant, pour le peu que je connais de lui, c'est quelque chose qui m'apparaissait. C'est pour ça que je voulais entendre sa réponse. Comment, avec tout ce qu'il a eu, comme obstacle, comme empêchement, comme difficulté, et puis comme justement ce qu'il vise, qui ne marche pas si bien que ça. Vous savez comment nous aimons, hein, que la chose que nous commençons, que nous entreprenons, que ça marche, on se sent béni, ça nous donne de la force aussi, n'est-ce pas? Mais il y a aussi ce qui doit nous donner de la force, comme on l'a dit et répété ce matin à travers plusieurs passages, c'est celui qui est fort. Bien sûr, il y a une manière où les circonstances peuvent nous encourager, telle parole d'un frère, telle réussite, telle attitude, tel événement, mais ce n'est pas là d'abord que nous puisons notre encouragement et notre force. Comme ça a été si bien dit ce matin, c'est dans celui qui est fort. C'est lui notre force. La force est en Christ, nous avons chanté. Et c'est exactement ce que ce frère m'a répondu. Et il est prêt à continuer encore, parce qu'il a un secret, parce qu'il ne lâche pas. Comment ça se fait qu'il ne passe pas à autre chose? Il ne passe pas à autre chose. Et quand la chose semble s'empirer, il continue encore en cherchant des solutions. Quand il sent qu'il n'y a plus aucune solution, il ne lâche pas. Et il m'a bien fait comprendre qu'il n'a pas du tout l'intention de lâcher. Pourtant, il est si faible. Et j'étais impressionné par le fait qu'avec les difficultés qu'il avait, qui, si vous ne saviez pas, vous alliez à peine voir. Moi, je le guettais tous ses gestes parce que je savais. Mais il est resté aussi longtemps que moi, tout le long du mariage. Et vous savez, j'ai réfléchi sur ça en rentrant. C'est moi qui, à un moment, qui ai pensé que je ne suis pas un couche-tard, je suis un couche-tôt. Quand j'ai regardé là, j'ai dit, le programme continue encore. Mais j'ai dit, non, là, il faut absolument que... Mais il s'est levé après moi. Il a profité de moi qui me levais pour partir, pour se lever à ce moment-là. Mais il est resté tout le long. Et on dirait que c'est quelqu'un qui n'a aucune difficulté. Et pourtant, très souffrant, là, dans son corps. Le secret, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est le Seigneur qui fait. Et il est convaincu, le Seigneur fait aussi à travers nos faiblesses. Le Seigneur continue de faire à travers nos limites. C'est quelque chose que je veux vraiment intégrer pour moi-même, au plus profond de moi-même. Et c'est quelque chose que je vous souhaite, que je prie pour vous. Merci pour votre bel exemple, le bon ordre que j'ai vu ici ce matin. Beaucoup de choses qui m'ont réjoui. Et que le Seigneur nous donne de plus en plus d'avancer comme ça, afin d'être fort de sa force. Et sa force, comme on a entendu, ça continue d'agir et de s'exprimer même en pleine faiblesse. Même qu'on ressent et qu'en réalité on l'est. Vraiment, si fort, si faible. Et ça, c'est pour que la gloire soit attribuée au Seigneur. Parce que quand j'entends ce frère me dire que c'est le Seigneur qui fait, je ne peux que le croire. Et la gloire est attribuée au Seigneur qui utilise ce vase de terre, ce vase fragile. Prions ensemble le Seigneur.